Décryptage, très bonne fin de journée sur RFI.
C'est tout.
18h10, 19h, Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile tout sur l'actualité locale. Nous, lundi, on était avec le Shabada, mardi, on était avec le théâtre du champ de bataille, et ce soir, on sera tout en poésie puisqu'on va parler du printemps des poètes. Ça débutera le 8 mars prochain jusqu'au 23, si je dis pas de bêtises. Il y aura beaucoup de choses au programme, on parlera de tout ça, et le festival fête ses 10 ans, donc on en parlera juste tout à l'heure avec André Martin et Philippe Martineau, tous deux coordinateur du collectif Printemps des Poètes d'Angers. Ce soir, on aura aussi La Drôle de Vie de Léona Gral et Tonton Albert. Et Topette, c'est parti pour ce soir jusqu'à 19h.
18h10, 19h. Topette, sur Radio G.
Mais juste avant tout ça, on va remonter un petit peu le temps, il y a 900 ans, lorsqu'une guerre a éclaté juste à cause d'une barbe.
Bonjour les humains, je suis une IA et je parcours les archives de l'humanité. Bienvenue dans le Graal de l'Histoire. Les guerres viennent parfois de très loin, mais quand des conflits qui durent 300 ans ont pour cause une barbe, on se dit que pour avoir la paix, il faut faire quelques concessions. Il y a presque 900 ans, la France a une reine. Et une reine très puissante. C'est Aliénor d'Aquitaine. Elle est mariée à Louis VII. Ce dernier part souvent en croisade. Aliénor l'attend sagement. Mais pendant un de ses voyages, Louis a décidé de se laisser pousser la barbe. Et ça, Aliénor, elle le trouve ça moche. Elle lui fait savoir. Mais Louis n'en démord pas. La barbe, c'est cool. Oh, de question qu'il se la rase. Ok, alors puisque c'est comme ça, je me casse. En gros, c'est ce qu'aurait dit la reine en demandant le divorce. Bon, j'avoue, il y a peut-être d'autres raisons, mais l'histoire a retenu celle-là. Le problème, c'est que, bien vénère, Aliénor se retrouve dans les bras d'Henri II d'Angleterre, lui donnant pour l'occasion un quart du territoire français. Louis est donc obligé de donner à Henri le titre de duc d'Aquitaine. Trop, c'est trop. La guerre est déclarée entre la France et l'Angleterre. Et ça va durer 300 ans. Ce n'est qu'en 1453 que les Anglais furent repoussés jusqu'à Calais. Bref, si on s'en tient à la version officielle, est tout cela pour une barbe. À bientôt pour un prochain Graal de l'Histoire.
Les podcasts du Graal de l'Histoire sont à retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Et juste avant d'accueillir nos invités du soir, une petite annonce. Erza Inclusion va organiser une journée dédiée à la solidarité féminine. Ça sera le 8 mars prochain au Digital Village, au 12 boulevard Jean Moulin à Angers, de 13h30 à 18h, au programme des témoignages de femmes et des ateliers créatifs. Donc on vous donne rendez-vous là-bas et nous on peut tout de suite accueillir nos invités.
L'invité de Topette sur Radio G.
Ce soir on est en présence d'André Martin, bonsoir.
Bonsoir.
Et de Philippe Martineau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes tous deux coordinateurs du collectif Printemps des Poètes à Angers. Alors avec vous, on va parler donc de ce festival, si on peut appeler ça comme ça, le Printemps des Poètes qui fête ses 10 ans cette année. Tout à l'heure, on parlera de la programmation, mais si on s'intéresse un petit peu avant ça à l'historique, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter la genèse de ce collectif peut-être, André ?
Alors peut-être une précision d'abord, c'est quand vous parlez des 10 ans, c'est le collectif lui-même, mais le Printemps des
Poètes... Le collectif qui fête ses 10 ans.
Le Printemps des Poètes existe déjà depuis de nombreuses années. Alors, le collectif, en fait, il est né d'une volonté de s'unir les associations angevines de poésie, mais aussi d'autres associations, pour avoir une plus grande lisibilité. Parce qu'on se rend compte depuis des années, bien sûr, que la poésie n'est pas le média culturel le plus écouté, le plus suivi, le plus lu. Et donc l'idée, c'était justement de s'unir pour avoir des événements un peu plus conséquents. Et on a comme partenaire, bien sûr, la ville d'Angers, hein, qui est engagée dans le Printemps des Poètes depuis des années aussi.
Alors, on racontait hors antenne, mais en fait, un collectif s'est constitué de plusieurs associations pour exister juridiquement, si je ne dis pas de bêtises, dans laquelle vous faites partie de laquelle
Alors, effectivement, oui, vous avez raison. Un collectif, c'est, comme vous dites, un rassemblement de plusieurs associations. Nous, c'est l'association Encre, dont Philippe, qui est à mes côtés, est le président, moi, le vice-président. Et effectivement, Encre est pratiquement à l'origine de ce collectif, suivant l'idée que j'énonçais tout à l'heure.
Et si on parle plus précisément du coup du Printemps des Poètes en lui-même, ça fait combien de temps que ça existe, Philippe ?
Alors, le collectif en lui-même, nous, on a 10 ans d'existence. En tant qu'association, Encre participe au Printemps des Poètes depuis 25 ou 30 ans, au moins, hein, puisque le Printemps des Poètes, ça remonte à... un certain temps, il y a certain monsieur Jack Lang.
C'est ça.
Donc très tôt, nous avons été impliqués dans le Printemps des Poètes. Il est vrai que, pourquoi le collectif, André en a parlé tout à l'heure, il y avait aussi le fait que lorsque l'on se réunissait à l'initiative de la ville pour parler de ce que l'on allait faire au cours du Printemps des Poètes, eh bien la ville se retrouvait avec 7, 8, 10 interlocuteurs en face d'elle. Et on avait chacun des choses à proposer, avec parfois des structures qui étaient prêtes à nous recevoir, des maisons de quartier, des théâtres, des choses comme ça, des cafés pour des animations, mais ça pouvait tomber sur les mêmes dates ou les mêmes moments, ça pouvait être un peu compliqué à organiser. La ville avait besoin d'avoir quelque chose de plus uniforme. Nous, ça correspondait tout à fait aussi à notre besoin, comme André le disait tout à l'heure, puisqu'on avait besoin de regrouper nos forces. En plus, il y a des gens qui sont plutôt des contributeurs individuels, qui n'ont pas forcément une association autour d'eux. Je pense notamment à toutes les activités qui tournent autour du slam, activités qui drainent toute une population très intéressante, une population très jeune, souvent aussi, hein, même s'il y a tous les âges sur les scènes slam, c'est intéressant de s'y retrouver. Donc, petit à petit, on a construit ce collectif, et c'est pour ça qu'effectivement, là, on se retrouve à 10 ans de collectif qui existe. On a fait beaucoup de choses. On a fait, notamment, on en reparlera peut-être tout à l'heure, à travers ce collectif. On a monté des sessions de des émissions de radio intitulées Poètes sans papier, qui sont passées sur Radio G et dont on a des podcasts maintenant et des choses qui vont être accessibles, mises à la disposition de la population.
Et est-ce que justement ce collectif, il a permis de contribuer à la promotion de la poésie à Angers, par exemple via la radio ou via des ateliers qu'on pourrait faire ?
Oui, vas-y André.
Non, c'était l'objectif visé effectivement. Oui. En fait, notre objectif principal à Encre, mais aussi dans l'ensemble du collectif, c'est de rendre la poésie accessible au plus grand nombre. Donc de se démarquer peut-être d'une poésie qui est un peu plus élitiste. Et donc, d'où effectivement aussi cette démarche de poésie vivante, c'est-à-dire de poésie qu'on met en espace, accompagnée de musique, et qu'on interprète souvent de façon assez théâtrale, pour redonner goût à travers l'oralité au besoin de lecture, de relire la poésie dans le livre.
Alors ça, c'est vraiment l'ADN du groupe Encre, voilà, de notre association. ADN que l'on retrouve justement sur les scènes slam. Donc on s'entend très très bien avec eux. Il faut noter également qu'effectivement, dans ce collectif, il y a des volontés qui sont dotées de talents particuliers, comme par exemple notre ami Jolion d'Airfeuille, qui a beaucoup fait sur les enregistrements, qui qu'il soit sonore ou qu'il soit visuel, il est à l'initiative de pas mal de choses au niveau de la programmation. C'est aussi un contributeur en tant que texte de poésie et en tant que intervenant lui aussi sur les scènes. Donc tout ça, effectivement, pour mettre en valeur la poésie, on peut dire qu'effectivement, à travers les années, et on a drainé un public assez important sur cette période du Printemps des Poètes. Nous avons des fidèles qui viennent nous voir tous les ans au moment du Printemps des Poètes et qui nous voient un peu plus tard après, lors de nos différentes animations. Au niveau de la radio, eh bien, oui, on a parlé de Poètes sans papier. C'était une belle expérience. Là, on va avoir quelque chose de bien au cours de ce Printemps des Poètes avec tous les podcasts qui sont issus de nos 10 ans, hein, et qui ont été construits notamment par Francis Carpentier et Jolion Derfeuille, qui font donc tous les deux partie du collectif.
Et si on parle de l'association dont vous faites partie, donc l'association Encre, est-ce qu'on peut la présenter en quelques mots peut-être ?
Ah oui, l'association Encre existe depuis une quarantaine d'années, un peu plus maintenant.
Oui, 1984 exactement.
1984, ouais. Voilà, André, ouais, était l'un des cofondateurs. Mmh. Et cette association de poésie est composée de 17-18 membres à peu près. Donc certains écrivent, certains disent sur scène, certains ne disent pas, sont simplement des gens qui écrivent. Nous avons deux musiciens qui nous accompagnent et qui sont là pour tisser un paysage musical lors de nos spectacles. Nous avons aussi un illustrateur, un dessinateur qui fait les illustrations de nos recueils et qui participe à nos rassemblements. Nous avons un certain nombre de personnes qui sont là aussi pour faire tout un travail de l'ombre, mais très très important. Ils sont là au moment des comités de lecture, notamment lorsque l'on rassemble les textes pour créer des recueils collectifs. Nous en sommes à notre 4e recueil collectif. C'est un petit peu notre démarche, c'est d'avoir un atelier d'écriture. De temps en temps, tous les quelques années finalement, on sort un thème, on fait appel à textes qui seront créés soit dans les ateliers d'écriture, soit individuellement par les gens du groupe Encre, soit également par des gens qui participent à notre atelier d'écriture, qui sont pas forcément des gens de Encre, parce qu'on a dans notre atelier d'écriture, oui, je fais une petite diversion, 3-4 personnes qui font des animations d'ateliers, dont certains sont dûment formés à l'atelier d'écriture, donc on maîtrise bien cet exercice, et on fait appel à textes de l'extérieur. On rassemble tous ces textes qui nous sont envoyés, donc on a à chaque fois 100-120 textes. On a un comité de lecture dans lequel participent des gens du groupe Encre, bien entendu, donc des gens qui sont peut-être des gens qui ont écrit, mais d'autres qui n'écrivent pas, mais qui souhaitent participer au comité de lecture pour sélectionner les textes. On en garde une bonne cinquantaine. On fait la démarche auprès de maisons d'édition. Donc là, ça fait 2 fois que l'on est édité par Le Petit Pavé, qui est un partenaire qui nous fait confiance, qui nous suit, qui nous soutient dans cette démarche d'édition. On a donc notre illustrateur qui nous fait l'illustration de nos recueils. On passe ensuite dans un studio. On l'a fait 3 fois sur 4 en tous les cas. Maintenant, c'est une démarche qu'on aime faire, c'est-à-dire que on essaye de sélectionner, enfin de prendre contact avec un studio d'enregistrement pour enregistrer avec nos musiciens une trentaine des textes du recueil, de façon à avoir un CD qui accompagne ce recueil. Tout ça dans l'optique de préparer un spectacle, et là il y a encore un certain nombre de personnes qui participent parmi les 17 pour créer ce spectacle que l'on mène sur plusieurs années sur les différentes scènes de France, voire d'ailleurs, puisqu'on a eu l'occasion de faire 2 tournées en Allemagne grâce à l'un de nos membres qui est allemand, hein, qui est poète allemand, mais qui n'écrit la poésie qu'en français.
André, Philippe, vous restez avec nous, on continuera à parler de tout ça juste après. On va faire une petite pause musicale sur le 100.5 FM. On écoute Home de Wax Taylor.
I wanna go home. I wanna go home. Go home.
Sur le 101.5 FM. Et nous, on est toujours en compagnie de André Martin et de Philippe Martineau, coordinateurs tous deux du collectif Printemps des Poètes à Angers. Alors tout à l'heure, on parlait un petit peu de l'historique du collectif qui fête ses 10 ans. Si maintenant, on s'intéresse un petit peu à la programmation du festival, le thème de cette année, il me semble que c'est la poésie volcanique. André, pourquoi ce thème? Qu'est-ce qu'il symbolise?
Alors d'abord, c'est un thème qui est choisi au niveau national, hein, puisque le Printemps des Poètes, c'est d'abord une manifestation nationale. Philippe l'a dit tout à l'heure, qui était à l'initiative de Jack Lang en l'autre, et puis en l'occurrence, et puis je crois de André Velter, le poète, je crois. Ce thème est choisi. Tous les ans, il y a un thème de choisi. Alors volcanique, bon, effectivement, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi le besoin irrépressible de dire des choses, hein, sur tout ce qui nous environne, sur la société, on voit bien les grands thèmes d'actualité aujourd'hui qui peuvent inspirer cette poésie volcanique. Après, bon, on reste pas non plus complètement.
On s'autorise obnubilé. Un peu à déborder,
oui,
du thème.
On n'est pas complètement obnubilé par le thème, hein, parce que bon, la variété de la poésie, il faut l'accueillir aussi comme elle est. Hein.
Philippe, il y a deux auteurs qui seront en résidence pour cette édition. Ce sont Ariane Dreyfus et Falmarès. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter ces deux poètes?
Oui, alors effectivement, à la demande de la ville, la semaine institutionnelle est basée sur le fait d'avoir deux poètes en résidence. C'est l'association La Miel qui est un petit peu l'organisatrice, qui est la clé de voûte dans le fonctionnement de tout cela. Les deux poètes effectivement invités sont Ariane Dreyfus, qui est une poétesse très connue, longuement éditée, qui a œuvré de nombreuses fois, qui avait été invitée l'année dernière aussi pour le Printemps des Poètes, qui n'avait pu venir sur Angers parce qu'elle était sollicitée par ailleurs. Donc c'est une écriture variée, riche et dense, qui va s'associer dans cette organisation de la semaine à un poète très jeune, hein, de 20 ans, Falmarès, qui est un poète, c'est un réfugié qui nous vient de la Guinée, et qui a trouvé à travers l'écriture un peu un exutoire et surtout une façon d'exprimer d'où il vient, ses racines, ce qu'il est, et ça a un certain succès. Donc, comme l'optique demandée par la ville est d'orienter aussi un petit peu la jeunesse sur la poésie. Alors la jeunesse au sens large, hein, comme le thème volcanique, c'est pareil, hein, la jeunesse c'est, on allait dire, de 7 à 77 ans, mais bon, disons c'est quand même ciblé un public de jeunes allant jusqu'à 30 ans, jusqu'à une bonne trentaine d'années. C'est pour ça qu'on va être beaucoup, enfin cette semaine officielle institutionnelle va être beaucoup centrée sur des animations qui vont se passer autour du J connecté, lieu de passage des jeunes, avec des animations proposées soit avec les deux poètes invités, Ariane Dreyfus et Falmarès. Alors Falmarès ne pourra pas être là toute la semaine parce que lui aussi il est un peu débordé dans ses sollicitations. Ariane Dreyfus sera là un peu plus souvent. Ils sont quand même en résidence sur Angers, donc ils vont participer à pas mal de choses, hein. Il y a toute une programmation et je pense que cette programmation elle va pouvoir être diffusée. Vous allez pouvoir sans doute donner le site. Il y a d'abord le site de la ville qui va indiquer toutes ces échéances, toutes ces dates. Et puis on a nous-mêmes notre débordement, comme l'a expliqué tout à l'heure André, avec nos activités propres du collectif du Printemps des Poètes qui vont intervenir. Sachant quand même que sur cette semaine institutionnelle, nous apportons notre contribution largement, effectivement, pour enrichir et pour seconder nos deux poètes invités. C'est ainsi que, par exemple, Malik, qui est un animateur slam bien connu sur Trélazé et sur Angers, viendra en support, effectivement, de Ariane Dreyfus pour faire un atelier d'oralité suite à des textes qui ont été faits. C'est ainsi également que André va faire un atelier d'écriture à partir des textes d'Ariane Dreyfus, toujours au J connecté. On a pas mal de choses prévues. L'idée, c'est effectivement d'inciter la jeunesse à venir aussi et à s'intéresser à la poésie. Parce qu'on sait que les un peu moins jeunes, ou ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps comme nous, eh bien, on est des habitués de la poésie, les gens vont venir, on a un public qui vient, qui sera là, mais là, c'est bien de toucher ces jeunes-là.
Et parmi les nombreuses animations, je crois qu'il y en a une qui s'appelle la Créazone. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler, André? Qu'est-ce que c'est cette activité?
Alors en fait, il y a plusieurs ateliers de proposer. Il y a effectivement un atelier d'écriture avec Ariane Dreyfus, qui sera l'animatrice, qui va donc proposer d'écrire à partir de certaines consignes d'écriture, comme on le fait habituellement. Et puis, dans un deuxième temps, Malik, que le slammer, viendra la rejoindre le groupe aussi des écrivains, et on passera de l'écrit à l'oral. Donc ça, c'est pour l'oralité. Il y aura un autre atelier qui est une interview, en fait, de Falmarès. Et donc, il y a là un groupe de jeunes qui s'appelle les courants numériques et qui vont animer une conduite d'interview avec Falmarès et donc avec les jeunes qui seront présents là pour leur donner quelques méthodes. Et puis, je crois qu'il y a un troisième atelier qui est, autour de la fabrication, la conception d'objets, je crois, et qui, autour du papotage aussi, je crois. Hein, donc, voilà un petit peu le Créazone. Et effectivement, le J connecté, en fait, s'adresse à un public de 15 à 30 ans, en gros. Hein. Donc, c'est un public un peu, entre guillemets, un petit peu captif, hein, sans que ça soit négatif. Mais donc, très orienté, jeune, comme le disait Philippe tout à l'heure.
Est-ce qu'il y aura des événements destinés aux familles ou alors au très jeune public aussi?
Ah, bonne question. Alors,
c'est peut-être un public qui est plus compliqué à voir avec la poésie.
Voilà, et c'est un public qu'on touchera, alors peut-être pas au niveau des familles, mais au niveau des enfants, oui, il y a des ateliers d'écriture qui sont prévus dans les écoles, et en particulier à l'initiative de la Miel, hein, qui est une des composantes aussi essentielles qui a été missionnée par la ville, par Monsieur Dufetel, l'adjoint à la culture, justement pour organiser aussi cette animation du Printemps des Poètes. Donc des ateliers d'écriture dans les écoles.
Vous restez avec nous, on continuera à parler de tout ça juste après, et surtout de la poésie à l'heure actuelle, où ça en est, est-ce que ça intéresse les jeunes, tout ça. Mais d'abord, on va écouter La drôle de vie de Léo Nagral.
La drôle de vie, la drôle de vie, la drôle de vie.
Voici un épisode de notre série policière Murder City. dit que j'ai payé mes impôts.
Oui, bonsoir, commissaire. C'est l'inspecteur Lucas Rabistouille à l'appareil.
Ah tiens, comment ça va?
Très bien, je vous remercie, et vous-même?
Oh, un peu de pluie, mais on fait avec.
Ah bah, vous savez, une série policière sans pluie,
ouais.
C'est un peu comme un kangourou sans chemise hawaïenne qui joue du xylophone. Non, attendez, je me suis perdu dans mon expression.
C'est pas grave.
Je vous dérange pas, au moins?
Non, non, pas du tout. J'étais juste occupé à dormir profondément sur mon bureau.
Oui, alors c'est...
Allez-y, je vous écoute.
C'est parce que je suis pas sûr à 100%, mais j'ai l'impression qu'un meurtre a eu lieu chez moi.
Ah merde, c'est vrai?
Ouais, on dirait. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu quand j'ai vu cette femme inconsciente baignée dans une énorme mare de sang.
Aïe, c'est fâcheux.
Ouais, c'est pas le top.
Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse exactement?
Bah, je sais pas, je me suis dit que vous pouviez peut-être faire venir le médecin légiste et tout le tintouin. Qu'est-ce que vous en pensez?
Pas de problème pour le médecin légiste, mais je sais pas si tout le tintouin est disponible.
Faites au mieux alors, mais surtout faites vite, on a que 3 minutes d'antenne.
Bien reçu.
Bon sang que c'était long. Ah, docteur, vous voilà.
Bonsoir, inspecteur.
Bonsoir.
Je suis venu avec le lieutenant Louis Tutti.
Bonsoir, inspecteur.
Bonsoir, bonsoir. Allez-y, entrez.
Merci. Alors, examinons d'abord cette jeune femme.
Qu'en pensez-vous, doc?
Quoi, elle est vraiment très jolie, hein.
N'est-ce pas?
Bien, examination terminée.
Alors, docteur, quelle est votre conclusion?
Eh ben, il semblerait qu'elle ne portait pas de culotte.
Je ne parle pas de la fille du magazine, mais de la victime.
Ah oui, la victime, c'est vrai. Eh bien, je pense qu'elle a été assommée avec un objet contondant.
Mm-hmm.
L'hématome sur son crâne le prouve, elle a fait une hémorragie.
Un objet contondant chez moi qui n'est que des haltères de 100 kilos?
Ouais.
Je me demande avec quoi l'assassin l'a tué.
Regardez, inspecteur, cette éponge est couverte de sang.
Bien vu, lieutenant. Il semblerait en effet que la victime ait été frappée à coups d'éponge.
Non, ce que je veux dire, c'est que le meurtrier a probablement essuyé l'arme du crime avec l'éponge.
C'est ce que je voulais dire. Mais quelle pourrait être l'arme du crime?
Regardez, cet halter est le seul à ne pas être taché de sang. C'est suspect, vous ne trouvez pas?
On vous a sonné, docteur. Occupez-vous donc de la victime.
Oui, pardon, excusez-moi.
Bien. Oh, regardez, lieutenant.
Quoi?
Cet halter est le seul à ne pas être taché de sang. C'est suspect, vous ne trouvez pas?
Bravo, inspecteur, vous avez l'œil.
L'expérience, mon petit. L'expérience.
Le meurtrier l'a très certainement essuyé pour masquer ses empreintes et les traces de sang.
Exact.
Si c'est le cas, cet halter pourrait bel et bien être l'arme du crime.
En effet.
Oui, vous m'avez sonné?
Docteur, vous vérifierez si d'autres empreintes que les miennes apparaissent sur cet halter, on ne sait jamais.
Entendu.
Je me demande ce que faisait cette femme chez moi, dans mon appartement, à mon domicile, dans ma demeure, dans mon logis, dans mon foyer.
C'est un vrai mystère.
Et pourquoi on l'a assommée? Quelqu'un l'aurait suivi?
C'est un vrai mystère.
Et pourquoi je n'ai pas eu de rapport sexuel depuis des lustres?
Ça, c'est un vrai mystère aussi, hein.
Bon, quoi qu'il en soit, vous pouvez amener le corps.
Attendez, il y a quelque chose sous sa veste.
Oh, qu'est-ce que c'est?
Ah non, pardon, ce n'est que sa poitrine.
Bien, dès que vous avez du nouveau sur son identité, appelez-moi.
Entendu. Bon, je la mets dans mon sac à macabée et je l'emmène.
Faites donc.
Allez, on y va.
Alors, Louis, du nouveau?
Ma femme est enceinte de 6 jours.
Et vous avez trouvé des indices?
Et tu vas rentrer, oui.
Oui, regardez sur le mur. Au milieu des traces de sang, il y a un message.
En effet, vous avez raison. Il est écrit...
Je meurs, au secours, c'est horrible, je saigne, il y a du sang partout, oh mon Dieu.
Ah oui, au fait, celui qui m'a tué n'est autre que...
On n'en saura pas plus, malheureusement.
Si seulement elle avait eu le temps d'écrire le nom du coupable, ça nous aurait facilité la tâche.
Vous en voulez plus? Eh bien, vous pouvez retrouver l'épisode complet ainsi que l'intégralité de la série policière Murder City sur toutes vos plateformes de streaming audio préférées.
La drôle de vie.
La drôle de vie de Léona Gral a retrouvé dans 2 semaines sur Topette. Et on est toujours accompagnés, nous, ce soir, par André Martin et Philippe Martineau, tous deux coordinateurs du collectif Printemps des Poètes d'Angers. Je crois que vous vouliez parler d'une troisième poète ou poétesse, je ne sais pas si ça se dit, qui est invitée à l'événement.
Alors, c'est une bonne question ce que vous dites, parce que poète, poétesse, les avis divergent. Il y a des femmes qui préfèrent qu'on les appelle poètes et d'autres qui préfèrent qu'on les appelle poétesses. Bon, là, on ne va pas s'encombrer de sémantique. Mais
un autre débat.
C'est un autre débat. Oui. En fait, elle a été invitée et elle connaît bien notre amie Karine Well, qui fait partie de notre collectif.
On peut
collectif.
Peut-être citer son nom, je crois que je ne l'ai pas cité.
Alors, c'est Martab Ghorbani. Martab Ghorbani, donc c'est une poétesse iranienne qui a dû fuir son pays pour des raisons que l'on sait, qui d'ailleurs a fait quelques années de prison à Ispahan exactement, et qui vit à Paris. Et il se trouve que Karine la connaît bien, a eu des contacts plusieurs fois avec elle, et donc elle l'a invitée d'une part dans son lycée Chevrolier où elle est professeure de lettres, pour une intervention, et elle en fait profiter également le collectif. Et là, je dois dire qu'on bénéficie aussi d'un geste assez remarquable de la ville, hein, qui met à notre disposition la chapelle des Ursules pour qu'elle puisse faire sa lecture de poèmes, mais aussi un échange avec le public le 15 mars à 16h30. Le 15 mars à 16h30.
Et la lecture de poèmes, peut-être qu'on peut en lire un poème. Est-ce que vous avez une idée d'un poème d'un poète qui serait invité? Oui. On vous écoute tout de suite.
Alors, je vais vous lire un poème de Ariane Dreyfus, extrait de Nous nous attendons aux éditions Gallimard. Le titre c'est Tu voudras bien lui donner. dans le bol transparent une poignée de cerises, plutôt sombres que rouges, les dernières. Elles ne sont pas prises. Sauf si penser à, aimer sans réponse, c'est comme manger. Le bol est plein d'ailes qui sont prêtes, qui disent « il faut savoir que c'est fini ». Goutte coagulée exactement comme ce qui peut souffrir et le refuse. C'est un poème un peu emblématique hein, de son recueil, hein, qui tourne beaucoup autour de choses comme ça, qui ont un peu des allures de nature morte, mais qui en plus suggère beaucoup de choses sur la vie en général et sur l'homme en particulier, et la femme bien évidemment.
Un très beau poème, et tout à l'heure on parlait que la poésie s'est intéressée aussi beaucoup les jeunes, notamment à travers le slam. Est-ce que c'est nouveau ça, que la poésie intéresse les jeunes? C'était peut-être moins le cas avant
Alors, peut-être, sûrement que l'émergence du slam et des scènes slam locales a permis de donner la parole un peu plus à toute cette population. Il faut savoir que sur Angers, puisque nous on connaît cette scène slam pour y participer de temps en temps, scène slam animée par Philou Boero, qui nous fait ça, dit Chenoboy, qui nous fait ça de main de maître, avec beaucoup de joie, beaucoup de bienveillance auprès du public. Elle rassemble toujours un monde important. La dernière fois, nous y étions donc au Mojo, on était entre 80 et 100 personnes. Il y a eu, combien on était à passer sur scène?
Une bonne 47.
47, oui, j'allais dire une cinquantaine. 47 personnes viennent sur scène dire leur texte. Soit ils l'ont entre les mains, ils le disent comme ça, soit ils le connaissent par cœur. Alors, dans des règles plus ou moins suivies du slam, c'est-à-dire que ça doit faire un peu, au maximum 3 minutes. On ne doit pas avoir d'accessoires, pas de musique. Le but du jeu, c'est de pouvoir permettre à tout le monde de passer. Il y a des notes qui sont données, sachant que c'est un petit peu pour la gloire, les notes. Hein. Il est fortement souhaité de mettre au-dessus de 8,5 sur 10, et voire mettre au-dessus de 10 sur 10 si on veut, sachant que chaque personne est chaleureusement applaudie par tout le monde, parce qu'il faut déjà avoir le courage de venir sur scène. Et là, on a beaucoup de jeunes, on a bien les deux tiers des personnes qui sont là, qui sont venues pour cette scène slam, qui sont des jeunes, des collégiens, des étudiants, des lycéens. On a eu la dernière fois donc un jeune de 13 ans venir nous dire des textes, mais on a aussi des jeunes de 18-20 ans qui sont là, qui nous fournissent des textes de belle facture, avec une belle intention de dire. C'est assez remarquable, et tout ça se mélange de façon intergénérationnelle avec des gens qui ont l'habitude de la scène ou qui ont l'habitude de ces scènes slam et qui viennent là aussi très régulièrement. C'est assez riche et enthousiasmant de voir tout ce mélange et cette richesse de texte et de dire et de courage de dire.
Comment vous percevez l'évolution de la poésie, peut-être avec l'ère numérique qui est arrivée, des choses comme ça? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on a changé l'image de la poésie qui pouvait peut-être avoir une image un peu élitiste avant?
Oui, peut-être qu'effectivement, je pense qu'il y a une tendance à la, comme on disait, une certaine période démocratisation de la poésie, une plus grande visibilité. Justement, je crois que le slam fait beaucoup pour ça, et je le soulignais tout à l'heure dans une conversation en aparté qu'on avait. Effectivement, les gens sont un petit peu prisonniers de l'image qu'ils ont à travers les médias, notamment la télévision, à travers des gens comme Grand Corps Malade, etc. Mais le slam, les vrais slameurs vous diront que c'est intergénérationnel, et donc ça s'adresse aussi aux enfants, à des personnes d'un certain âge comme nous, par exemple, et puis des gens plus jeunes, bien évidemment. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ce brassage de population et donc cette diversité d'expressions qui souvent d'ailleurs parlent de la vie qu'on vit, des problèmes que l'on peut avoir, et puis aussi il y a des coups de gueule aussi dans le slam, hein, bien évidemment. Donc l'évolution, je pense qu'elle est là.
Et est-ce que la poésie, c'est important, comme vous disiez, ça permet peut-être de se libérer des choses comme ça, c'est important?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça permet de sortir du livre aussi, hein. En fait, je crois que c'est ça. Et de dire, de clamer sur la place publique. Finalement, je crois que le slam retrouve un petit peu les origines de la poésie déclamée, de la poésie chantée du temps des troubadours.
Et l'on trouve sur les scènes slam aussi, sur la scène slam que l'on connaît, on le trouve bien, pas uniquement du slam scandé tel qu'on a un peu cette image connue. On a cela, bien sûr, mais on a tout simplement des gens qui viennent dire des textes, parfois d'une façon un peu académique, des textes qui ont une consonance classique, hein, des textes à rime ou des choses comme ça, même si ce sont des jeunes qui viennent le dire. Mais à chaque fois, c'est un message personnel. Chacun y trouve sa façon de le dire, sa façon de l'avoir écrit, de le dire. Parfois, c'est un peu improvisé aussi. Donc, on a différentes formes, mais il y a beaucoup d'authenticité. Et c'est à travers ça que peut, à mon sens, germer effectivement la poésie. D'ailleurs, Falmarès, lui-même, n'est pas un slameur, mais il dit sa poésie. Il l'a dit de façon peut-être un peu plus classique, il a des clams, mais à mon avis, s'il venait sur une scène slam, il passerait tout à fait très bien entendu, comme ceux que l'on voit sur les scènes qu'on connaît là.
Quel conseil vous donneriez à des jeunes poètes qui souhaiteraient se lancer dans l'écriture ou dans la performance, André? Est-ce que vous auriez un mot à leur dire?
Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'à partir du moment où il y a une sensibilité qui s'exprime, ça mérite qu'on s'y arrête, qu'on écoute ou qu'on lise. Je le dis parce qu'on est sollicité aussi, savez-vous, par des gens qui nous envoient des manuscrits et qui nous disent qu'est-ce que vous en pensez. Et donc, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure par rapport à la visibilité, à la lisibilité de la poésie, c'est que ce fait donc de se regrouper, d'avoir des événements qui sont beaucoup plus déchiffré hein, sur la dans l'opinion publique, ça permet de ça constitue un appel aussi, et donc des gens viennent nous trouver. Moi, je pense que on n'a pas beaucoup de conseils à donner, sinon un ressenti à la lecture de jeunes poètes, par exemple. Il y a ce fameuse référence là, donc de l'être à un jeune poète, c'est difficile hein, de donner des conseils. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui ressort aussi de cette lettre. Hein. C'est quelque chose qui est très profond dans l'être humain, et à partir du moment où on ressent cette envie d'écrire, il faut y aller, quoi qu'il en coûte, et puis essayer de cheminer, et puis peut-être de s'entourer d'échos comme ça, parce que nous on ne peut que constituer des échos. D'ailleurs, l'auteur de la lettre à un jeune poète dit que une des choses qui sont les plus redoutables en poésie, c'est la critique.
On note alors être authentique du coup et ne pas hésiter à se lancer si on veut faire de la poésie. Exactement. Nous, on va maintenant passer tout de suite à la bouteille aux trois quarts vide avec Tonton Albert.
Dis-moi Tonton, j'ai l'impression que ta bouteille du jour possède un petit côté inhabituel.
Ah, ça n'est pas faux, mon jeune ami. Ma bouteille, une fois n'est pas coutume, est moins vide que d'ordinaire. Un soudain et improbable regain d'optimisme. Et plus exceptionnel encore, je vais même dire du bien de gens que je ne manque pas habituellement de brocarder. J'ai nommé les élus.
Oh oui, en effet, nous voilà devant un tonton Albert qui n'a plus rien à voir avec le tonton que nous connaissons bien. Peux-tu nous expliquer, tonton, les raisons de ce revirement pour le moins déconcertant?
Bien sûr. Si je ne manque pas de critiquer l'action, voire l'immobilisme de celles et ceux en faveur desquels nous votons, c'est que le plus souvent, je les vois assez peu soucieux du bien commun, de notre environnement tout particulièrement, quand ils et elles ne versent pas délibérément dans le conflit d'intérêts. Et puis là, patatras, plus d'une centaine d'élus de Loire-Atlantique montent au créneau pour défendre un bien précieux entre tous, à savoir les ressources en eau potable. Ces élus de droite comme de gauche ont transmis au début du mois de février à l'AFP un manifeste pour réclamer l'interdiction des pesticides dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable. Je te vois interloqué, Pierre Benoît, tu préfères que je dise produits phytosanitaires plutôt que pesticides pour que mon propos soit plus politiquement correct?
Non, mon tonton, c'est juste que ça paraît tellement évident d'interdire l'usage de produits chimiques dangereux dans ces zones-là que je comprends pas pourquoi ce n'était pas déjà fait.
Ouais, sans doute parce que ça paraît trop évident, en effet. D'autant que ces chimies conçues pour éradiquer les bestioles les plus diverses, notamment celles que l'on voudrait paradoxalement protéger, sont porteuses de jolis désordres dans les organismes humains. Vous reprendrez bien un peu de perturbateur endocrinien, ou alors juste un doigt d'effet cocktail pour entretenir votre Parkinson. En tout cas, ces élus du département voisin, de l'échelon municipal aux représentants et représentantes siégeant à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mettent les points sur les i. Ils et elles dénoncent le fait que nombre de captages alimentant la population de Loire-Atlantique sont pollués par des molécules au nom barbare contre lesquelles le traitement de potabilisation se révèle sans effet. Plutôt inquiétant, pas vrai? Voilà de quoi calmer la croyance obstinée en cette baguette magique de la technologie qui va nous tirer des pétrins dans lesquels on aime tant se fourrer sans se lasser le moins du monde. Comme quoi, l'on peut être simultanément, élu du peuple et conscient qu'il y a des limites à hypothéquer l'avenir. Bref, que l'avenir, ça va un tout petit peu plus loin que l'horizon d'une réélection. Ils et elles insistent sur le fait que durant des décennies, des sommes considérables ont été englouties dans des programmes fumeux, censés reconquérir la qualité de l'eau sans pour autant aboutir à des résultats significatifs. Et pour cause, puisque de tels programmes n'ont jamais eu pour vocation de modifier les habitudes les plus impactantes pour l'environnement et par ricochet sur notre santé. Oserais-je dire une succession de trous dans l'eau ?
Et accessoirement dans les budgets.
Tout juste, cher ami. Et tu vois, c'est assez désolant de s'apercevoir que c'est peut-être l'argument pécunier qui, au final, sera le seul audible. Les atteintes à l'environnement, les conséquences sur la santé, franchement, on peut avancer sans même se montrer cynique quand, au lieu, l'on s'en fiche superbement. Par contre, les ponctions sur les finances, ça c'est recevable. On ne rigole pas avec la monnaie. Et tu vois, il me vient une image à l'esprit.
Laquelle, tonton ?
Tu sais bien, un peu partout dans le monde, les touristes jettent volontiers des pièces de monnaie dans certaines fontaines en faisant un vœu. Peut-être qu'un jour, on jettera quelques pièces dans la flotte en faisant le vœu que cette eau s'avérera réellement buvable. Bien évidemment, face à ces captages délivrant une eau de piètre qualité, notre belle modernité propose une parade efficace. L'eau en plastique. En bouteille, si tu préfères. Si je dis eau en plastique, ce n'est pas anodin, car des études ont montré que le plastique alimentaire, mon cher Watson, ne l'était pas tant que ça. Et que c'est des particules d'autres cochonneries chimiques issues de l'emballage se diluaient dans l'eau que la bouteille contenait. S'ajoute à cela que payer le litre d'eau au prix du mètre cube me dérange quelque peu. Et puis, franchement, renoncer à un bien autant commun que vital, en l'occurrence l'eau, pour que des multinationales le transforment en un bien marchand comme n'importe quel produit, a quelque chose de profondément choquant. C'est ce que soulignent en filigrane ces élus de Loire-Atlantique. Et pour cela, qu'ils et elles en soient remerciés. Si d'autres départements pouvaient s'emparer du sujet, ce manifeste serait vraiment une très bonne nouvelle. Tu vois, en 1974, bien sûr tu n'étais pas né, le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle, un certain René Dumont, avait attiré l'attention sur sa candidature par une image forte. Il avait bu un verre d'eau face aux caméras de la télévision en insistant sur le fait que ce simple geste ne le serait sans doute plus dans les années à venir. Eh bien, sa redoutable prophétie est hélas en train de se réaliser. Allez, à votre santé.
Et il est maintenant venu l'heure de nous quitter pour ce soir. C'est déjà la fin de Topette. On est toujours avec vous, André et Philippe, est-ce que si vous devez nous rappeler en quelques mots ce qu'on va pouvoir voir et faire au Printemps des Poètes, André, qu'est-ce qu'on pourra y retrouver?
Alors, on va peut-être pas tout donner parce qu'il y a, je crois, 18 animations de prévues, hein, tout compris.
Peut-être les meilleures.
Voilà, c'est ça, oui. Hein, ou du moins les plus remarquables, peut-être, oui. Alors, il y a d'abord les 10 de femmes. C'est un rendez-vous traditionnel le 8 mars à 16h à l'Auditorium du Musée des Beaux-Arts, animé par Annick Dandeville. On peut ensuite parler du rendez-vous du 16 mars en ce qui nous concerne. Et Philippe, tu peux en dire un mot autour de Death Note.
Oui, je pense à toi. Death Note, c'est un spectacle poétique et musical qui a été créé par justement le poète allemand qui fait partie de Encre. Il a créé ça de toutes pièces avec son épouse. Il a mis certains textes en musique. Il a écrit certains textes lui-même pour rendre hommage à Death Note. Et il y a des textes de Death Note qui sont donnés dans ce récital, plus effectivement certains documents journalistiques pour relater un petit peu la trajectoire et la destinée tragique de ce poète tout à fait étonnant. Alors c'est un récital qui est particulièrement jubilatoire parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont drôles et étonnantes, bien sûr, qui sont tout à fait significatives de Death Note.
Alors, on pourrait indiquer aussi les animations traditionnelles de notre ami Noël Darmaillac, hein, qui est aussi comédienne, metteur en scène, et puis qui déclame bien la poésie. Elle travaille beaucoup avec l'UATL et elle propose donc un spectacle autour du I pourpre, extrait du poème Les voyelles d'Arthur Rimbaud. Également, bon, les slams, on en a parlé, hein, il va y en avoir au Mojo, Philippe en a parlé, et peut-être un petit peu plus lointain, donc après le Printemps des Poètes, on a le slam du Carnet animé par Philippe Boéro, et puis peut-être le spectacle terminal là, qui fête nos 10 ans au Théâtre du Carnet également, où on aura une poésie mise en espace avec des musiciens.
Et si on veut retrouver du coup toutes les informations pratiques, c'est sur le site de la ville d'Angers, peut-être vos réseaux sociaux, le collectif du Printemps des Poètes à retrouver sur Facebook, j'imagine.
C'est ça.
On peut retrouver le programme. Est-ce que toutes les activités faut réserver ou alors il y en a qui sont en accès libre peut-être? Ça dépend.
Alors c'est à préciser d'abord que la plupart du temps c'est l'entrée est libre.
Libre et gratuite.
Voilà, à quelques exceptions près.
Okay, oui.
Eh bien, parfait, c'est noté pour nos auditeurs. On leur donne rendez-vous dès le 8 mars prochain. Nous, la semaine prochaine, demain, on sera avec Angers Night Fashion. Moi, je vous dis à demain, du coup, et topette.
Qu'est-ce que je fous là?
G, Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.